Vous écoutez RTL.
RTL Matin,
Yves Calvi.
7h45, Elisabeth Martichoux, vous recevez ce matin le professeur d'anglais Sophie Mazet.
Bienvenue à ce micro, Sophie Mazet. Votre livre est une démonstration du bonheur d'être prof et il s'attaque aussi au déclinisme ambiant. On va y revenir, mais d'abord, donc, votre rentrée, c'est plus précisément pour vous demain. Vous découvrirez vos classes dans le gros lycée Auguste Blanqui de Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis, un département qui, entre guillemets, a mauvaise réputation. C'est votre 11e rentrée. Dans quel état d'esprit? Vous avez le trac?
Un tout petit peu, mais je suis plutôt très contente en fait, de voir mes futurs élèves. Je suis plutôt enthousiaste d'essayer de tester des nouveaux projets que j'ai pu élaborer cet été.
Alors, on va essayer de découvrir dans quel environnement vous êtes. Une trentaine d'élèves par classe en moyenne, c'est ça pour vous?
Voilà, entre 24 ou 35.
De la mixité sociale dans votre lycée?
Pas tant que ça. C'est en train de changer un petit peu, mais il n'y a pas tant que ça de mixité sociale, non.
Des classes homogènes avec des bons et des mauvais élèves?
Des classes non.
Hétérogènes avec des bons et des mauvais élèves.
Ouais, des classes vraiment extrêmement hétérogènes.
Vous avez eu, vous, des classes difficiles à tenir, des chahuts qui s'installent, des débuts de cours compliqués?
Alors, des débuts de cours compliqués, des milieux de cours et des fins de cours compliqués aussi, effectivement. Ça m'est arrivé de ne pas pouvoir obtenir le silence. Ça m'est arrivé de... Bon, en principe, je ne crie pas sur les élèves, j'essaye de ne pas trop m'énerver. Mais je me tais en attendant qu'ils se taisent et puis c'est arrivé que ça dure 25 minutes.
25 minutes pendant lesquelles...
Ça m'est arrivé.
La classe, donc, chahute et vous ne faites rien.
Voilà, la classe
et
n'a
personne
pas compris.
Vous n'êtes pas là, quoi.
Non, ils ne sont toujours pas compris que le cours n'avait pas continué. Ça m'est arrivé. C'était vraiment des moments très, très difficiles dont on peut se relever. Hein. Ça arrive, mais c'est vrai qu'au début d'une carrière, ça peut être compliqué.
Ouais. Ça déstabilise.
Ça déstabilise assez fortement. Ouais,
vous vous demandez comment vous allez arriver à transmettre quelques connaissances d'anglais à des élèves qui, finalement, quoi? Pourquoi ils sont chahuteurs comme ça dans un lycée, hein?
La plupart du temps, ce sont des classes de seconde, c'est parce qu'ils sont un petit peu jeunes. C'est vrai qu'à partir de la classe de première terminale, ça arrive beaucoup moins, encore que. On se demande comment faire, mais je pense que le tout, c'est vraiment d'essayer de faire table rase après ce cours catastrophique qui a eu lieu. Et ça, c'est le plus dur, en fait, de ne pas repartir ensuite devant les élèves avec ces a priori qu'on a formés au cours précédent.
Il y a des astuces?
Oui, essayer de ne pas raconter le même incident 25 fois, je pense que ça...
En salle de prof?
Voilà, ça le fait exister, ça le rend encore plus gros qu'il n'était au début.
Et devant les élèves, il y a aussi des trucs pour essayer d'obtenir enfin de pouvoir faire cours?
Alors ce qui fonctionne assez bien, c'est d'essayer d'être assez clair sur les objectifs, de ne pas lâcher sur les exigences et d'essayer de leur expliquer qu'on pense qu'ils peuvent faire mieux, que de reconnaître qu'ils ont fait des choses catastrophiques la fois d'avant, mais de leur expliquer qu'ils peuvent faire mieux et qu'on attend ça d'eux.
Vous dites qu'il faut être ferme sur les principes. Vous racontez qu'en début de carrière, dans votre livre « Prof, les joies du métier » chez Robert Laffont, quand vous êtes arrivé dans le lycée, vous étiez très strict, par exemple, sur le respect du règlement intérieur. Quand vous voyez un élève avec une casquette, vous le poursuivez jusqu'à ce qu'il l'enlève. Alors ça donne lieu à parfois des poursuites sans doute un peu surréalistes. Vous avez un peu lâché là-dessus. Vous êtes obligé de faire des compromis, dans le fond.
Alors, j'ai pas lâché sur le fond, mais c'est vrai qu'au début de ma carrière, je pense que l'histoire des casquettes, bon, je sais pas si j'étais ridicule ou agressive, peut-être un peu les deux. Mais comme je considérais qu'ils avaient enfreint le règlement intérieur, je pensais que j'étais pas obligée d'être aimable avec eux. Après tout, je pouvais les engueuler, c'était tout à fait mon droit. Sauf que ce qui se passait, c'est que parfois c'était des élèves qui ne me connaissaient pas et donc qui regardaient dans le vide et ignoraient totalement, faisaient totalement semblant d'ignorer mon existence, voire s'en allaient en courant. Donc je leur courais après, totalement ridicule. Puis mes collègues avaient peur pour moi, me disaient mais quand même, tu vas t'en prendre une un jour, c'est pas possible. Et en fait. Un jour, j'ai essayé de faire autrement, c'est-à-dire que j'ai essayé de dire « Bonjour, est-ce que vous pourriez enlever votre casquette, s'il vous plaît, avec un sourire ?»
Vous les voyez toujours ?
Toujours, absolument.
Jamais tutoiement ? Toujours.
Non, jamais tutoiement,
pourquoi ?
Mais alors, j'en fais pas du tout un principe...
Universel ?
Non, pas du tout, c'est que pour moi, le tutoiement et le vouvoiement doivent être réciproques, et donc, à partir de ce moment-là, je préfère quand on est dans le vouvoiement.
Vos élèves, de fait, vous vouvoient ?
Mes élèves me vouvoient,
tutoiement. Et donc, vous avez changé.
Et donc, j'ai changé, voilà.
Bonjour.
Je dis bonjour, je fais un sourire et je demande s'ils peuvent, s'il vous plaît, enlever leur casquette. Et alors là, ça marche quasiment toujours, bizarrement. Donc, j'ai pas l'impression d'avoir transigé sur le fond, c'est-à-dire que je fais toujours une remarque quand je vois une casquette, même si ça a l'air de rien. Mais je la fais poliment, et là, ça marche en fait, bizarrement.
Mais on associe les lycées de certaines banlieues aux violences venues de l'extérieur, aux trafics en tout genre, aux enseignants débordés. C'est ça votre vie de prof ?
C'est pas que ça. C'est très très loin d'être que ça. C'est ce que j'ai essayé de dire avec mon livre, en fait. C'est qu'il y a effectivement des problèmes. Il y a effectivement des problèmes de trafic. Il y a des problèmes. Parfois on est débordé, parfois on n'est pas bien. Mais il y a aussi tous ces moments où on est bien, tous ces moments où on est content d'être là et où les élèves eux-mêmes sont contents d'être là. On est content d'être avec eux et c'est réciproque. Et en fait, j'ai voulu parler de tous ces moments-là où eux vont pas si mal et nous on va bien aussi.
Vous n'êtes pas un peu bisounours?
J'essaye de ne pas trop l'être.
Vous avez des confrères, des collègues, des hommes et des femmes. Vous avez une consoeur qui vient d'écrire un livre sur le fait que l'école est une machine à broyer. Il y a beaucoup de témoignages de profs qui ont la boule au ventre, comme on dit, expression consacrée. Vous n'êtes pas un peu, vous, dans une espèce d'obsession de positiver l'école ?
Alors, je ne vais absolument pas nier l'existence de leurs témoignages. Voilà, je respecte tout à fait ce qu'ils peuvent dire et ce qu'ils peuvent vivre. Néanmoins, ça ne correspond absolument pas du tout à mon vécu, même s'il y a des moments difficiles, encore une fois. Globalement, c'est un métier que j'aime et dont j'avais vraiment envie de parler. Donc, ça ne correspond pas à mon vécu. Et j'ai l'impression que les voix négatives sont celles qu'on entend, hélas, le plus.
Pourquoi ?
Je ne sais pas, parce qu'on aime bien râler, parce qu'on aime bien pas être très content. Et aussi, accessoirement, parce qu'on entend le plus aussi les critiques sur les enseignants. Donc, pour contrer ces critiques, en quelque sorte, on est dans cette image du prof toujours débordé, qui travaille tout le temps, qui est très malheureux, qui est très stressé.
Mais on entend aussi beaucoup les critiques des enseignants.
On les entend aussi beaucoup, mais finalement, si on regarde les statistiques, c'est ce que j'ai essayé de dire dans mon livre, finalement, les gens nous aiment bien, en fait. Je crois qu'il y a plus de 70% des gens qui ont une opinion positive ou très positive des enseignants. C'est pas mal, quand même.
Oui, mais on entend beaucoup les profs critiquer le système, les critiques émanant des profs.
Alors, ces critiques sont parfois, effectivement, justifiées. Une fois qu'on les a faites, ces critiques, on peut essayer d'agir, mais après, ça ne justifie pas non plus de jeter le bébé avec l'eau du bain.
Ouais. Il y avait eu la une du Parisien samedi, il y a donc moins de 48 heures. Les addictions flambent chez les ados, addiction au cannabis, à l'alcool. Vous le constatez, vous ?
Je ne saurais pas dire si ça flambe. Effectivement, on constate parfois des addictions. Après, je ne suis pas forcément la mieux placée pour le voir, parce que quand on a 30 élèves, on ne le voit pas forcément toujours. Mais,
aux écrans, ils sont accros.
Ils sont totalement accros aux écrans, oui.
Comment
totalement.
Vous faites
C'est extrêmement difficile. J'ai une collègue, ma collègue Hélène fait un truc génial, elle a des enveloppes à bulles avec le prénom des élèves, où les élèves posent le téléphone en entrant au début du cours et elle garde ça.
Et les mettent dans les enveloppes.
Voilà, ouais. Ils les laissent dans les enveloppes.
Et donc elle confisque elle confisque les portables.
Elle le confisque, mais c'est pas punitif. Oui, c'est pas punitif, et surtout, ils savent où est le portable, ils savent que c'est pas parce qu'ils ont fait une bêtise, parce qu'ils l'ont utilisé. Donc je vais peut-être lui piquer ce truc, ça fait des années que je dis que je vais le faire, elle va peut-être le faire cette année.
Est-ce que les rapports de force entre filles et garçons sont de plus en plus durs ?
Il y a des rapports de force entre filles et garçons, effectivement. Est-ce qu'ils sont de plus en plus durs ? Peut-être, effectivement, oui. Là, je n'aurais pas forcément le recul pour le dire.
Je vous demande ça parce que dans son livre, un ancien principal de collège de Marseille, Bernard Ravet, dénonce, lui, alors c'est tout le sujet de son livre, une poussée violente de l'islam dans les établissements des quartiers nord de Marseille. Et entre autres, il dit que bon, il y a des fillettes de plus en plus nombreuses qui retirent le voile à l'entrée de l'établissement, et aussi des garçons qui en classe expliquent de plus en plus souvent que les filles, elles doivent rester à la maison, les filles, elles n'ont rien à faire dans la vie professionnelle. Est-ce que c'est quelque chose que vous touchez du doigt ?
Alors, je pense qu'il faudrait éventuellement se méfier de notre tendance à voir ce qu'on a envie de voir, mais c'est quelque chose qu'on voit des fois. Je ne sais pas si on le voit plus qu'avant. Peut-être. Mais
vous le voyez
pas. Ça arrive, oui, ça arrive qu'on le voit, qu'on entend des propos tout à fait inadmissibles. Et je pense que dans ce cas-là, ce qu'on essaye de faire, ce qu'il faut faire, c'est rester cohérent, c'est-à-dire rester ferme sur la règle, rester ferme sur les principes, encore une fois. Et si on est tous fermes, ça ne fonctionne pas si mal.
Mais c'est facile à rappeler une règle devant des élèves qui amènent comme ces idéologies de l'extérieur, qui font groupe en plus, qui font corps en général face à l'institution ?
Non, c'est pas toujours facile, mais si on est cohérent et surtout si on est bienveillant...
Ça veut dire quoi, être cohérent ?
Être cohérent, ça veut dire que tout le monde doit la faire respecter, la règle. Ouais. Et ça, c'est pas forcément toujours gagné.
C'est-à-dire, qui ne la fait pas respecter parfois ?
Pas tous les collègues, en fait, s'ils sont pas forcément d'accord ou pour X raisons. Mais si on fait pas tous respecter la règle, effectivement, les élèves vont jouer sur le fait qu'avec monsieur ou madame un tel, on respecte pas. Donc c'est plutôt une question de cohérence, je pense, et d'expliquer
aussi. Donc de cohésion
aussi.
Au sein de l'établissement. Ouais. Est-ce que vos élèves venus de banlieue ont les mêmes chances que ceux issus des centres-villes de Paris, Bordeaux ou Lyon ?
Je ne suis pas sûre qu'ils aient les mêmes chances, non. Je ne suis pas sûre. Mais on essaye de leur en donner le plus possible et de les faire réussir le plus possible.
J'en doute pas une seconde, mais l'école française est inégalitaire.
Elle est assez inégalitaire, oui.
Ouais. Et vous faites quoi pour essayer d'encourager ces élèves à s'éloigner de la programmation de ce qu'ils sont, parce qu'ils habitent là ?
On essaye de
l'assignation à résidence.
On essaye d'avoir des exigences avec eux qui seraient les mêmes exigences partout, dans tout le pays, dans toutes les classes sociales, toutes les catégories sociales, tous les territoires, en fait. Avoir des exigences assez élevées, c'est aussi leur montrer qu'ils sont capables de faire aussi bien que les autres.
Vous êtes normalienne, on le disait. C'est l'aristocratie de l'éducation nationale. Est-ce que vos élèves vous font sentir que vous n'êtes pas du même monde ?
Oui, parfois. Alors, ils ne savent pas spécialement que je suis normalienne, parce que c'est quelque chose... ils ne connaissent pas forcément cette école. Mais ils me font parfois sentir qu'on n'est pas du même monde, oui.
Jean-Michel Blanquer, bon ministre ?
J'en sais rien. C'est un peu récent encore pour dire bon ministre, mauvais ministre.
Affreux élitiste,
faudrait nuancer un
limite
peu.
Réactionnaire ou le messie qui va révolutionner l'école dans le bon sens ?
Probablement aucun des deux.
Au milieu, vous lui accordez le bénéfice du doute ?
Pour l'instant, oui.
Vous lui demandez de venir vous voir ?
Je ne sais pas, on verra.
Avec vos élèves de seconde, première, terminale en anglais. Merci beaucoup d'avoir été notre invitée ce matin. Sophie Mazet, prof, les joies du métier chez Robert Laffont. Et c'est vous qui avez écrit Manuel d'autodéfense intellectuelle. Vous avez aidé les élèves à lutter contre les thèses complotistes. Merci à vous.
Merci.
Elle ne nie pas les difficultés, mais témoigne d'une autre façon de son quotidien d'enseignante. Merci infiniment, Sophie Mazet. L'entretien, bien entendu, et vous pouvez le suivre sur RTL.fr et vous pouvez bien entendu l'y retrouver dans son intégralité.